Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut Cinociné, votre rendez-vous avec le cinéma, présentement décliné en Extra Ball, notre format court et intense qui nous permet de mettre en lumière rapidement une série ou un film. En l'occurrence, on vise la seconde catégorie puisqu'on va parler de Triple Frontier, une production Netflix signée J.C. Chandor. On va en causer avec mes camarades David Honora, salut David.
Salut Thomas.
Et Perrine Kenson, salut Perrine.
Salut Thomas.
Cinociné Extra Ball spécial Triple Frontier et c'est parti.
Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Triple Frontier, c'est un film de braquage, donc ça nous raconte comment un groupe d'ex des forces spéciales américaines s'unissent pour tenter de piquer la cagnotte d'un baron de la drogue. Et pour assurer cette délicate mission, J.C. Chandor a réuni un quintet de gueules connues: Ben Affleck, Oscar Isaac, Gareth Edlund, Charlie Hunnam et Pedro Pascal. C'est bien ça? J'ai tout bon?
Ouais.
À peu près?
Il y a tout le monde.
Il y a tout le monde. Ils sont tous là. Mais ça vaut quoi alors, Perrine?
Bah, là, le casting, là, comme ça, moi, ça c'est...
Tu signes?
Pas mal.
C'est pas mal. C'est pas mal en termes de purement, hein, de
artistique.
Voilà, artistique, pur et dur.
Ben
pas
Affleck
du tout.
Mis à part peut-être.
Il a ses moments.
Non, mais il a de bons restes en fait. Hein. Il y a un côté.
Il y a plus que des restes là, d'ailleurs.
Il y a un petit peu plus. Quoi. Non, mais après voilà, c'est vrai que c'est un j'allais dire un quintuor, mais ça se dit ça.
Un quintuor,
un quintet.
Ouais.
C'est mieux. Un quintet d'acteurs qui sur le papier fait un petit peu rêver quand même, parce que chacun très identifié, chacun dans leur typologie de film, et même pour plusieurs générations d'une certaine façon. Et c'est assez amusant de les voir se regrouper autour de ce projet-là, qui est un projet qui a pas mal vécu en réalité, quoi, parce que depuis ses débuts, je crois que ça fait 10 ans que ce projet existe à peu près. Il y a Catherine Bigelow qui était aux commandes, qui finalement est productrice, hein, sur le film, coproductrice. Marc Ball qui est au scénario, qui est aussi coproducteur d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il est passé entre plein de mains ce projet. Il est allé jusqu'à Johnny Depp, Mark Wahlberg. On l'a vu passer même Tom Hanks d'ailleurs, je crois. Donc vraiment, il a pas mal circulé avant d'arriver dans les mains de J.C. Chandor. Et c'est vrai que c'est un scénario qui lui va plutôt bien à J.C. Chandor, parce que mine de rien, c'est un réalisateur qui commence au bout de, ça doit être son quatrième film, j'ai peur de dire une bêtise,
oui,
il y a eu Martin Call, All Is Lost, Almost Violent Hour et celui-ci. C'est quand même un réalisateur qui commence à s'imposer,
oui,
sincèrement dans le cinéma américain, comme une sorte de moraliste aussi. C'est quelqu'un qui dit des choses sur son pays, qui ne va pas par quatre chemins, et c'est aussi quelqu'un qui s'amuse à détourner les genres en permanence. Là où on s'attend à voir tel type de film, par exemple, je prends le cas de Almost Violent Hour pour le plus récent, où on s'attend à un film de gangster, bah finalement, il va détourner un petit peu cette idée du film de gangster pour faire une vraie réflexion moraliste sur le bien, le mal, jusqu'où le capitalisme peut se justifier, et à quel moment on devient méchant, à quel moment on tombe. Et il y a une vraie réflexion. Et là, encore une fois, on pourrait s'attendre, justement, tu l'as dit, film de casse. Et en effet, on s'attend à un vrai film de casse. On a l'impression qu'on va avoir Ocean's Eleven chez les barons de la drogue. Et en fait, c'est pas du tout ce qui intéresse J.C. Chandor, encore une fois. C'est-à-dire qu'il va détourner cette idée de heist pour... finalement, le cas, ça arrive très rapidement dans le film. Assez rapidement. Pour finalement nous raconter une réflexion sur la cupidité des États-Unis et notamment sa cupidité vis-à-vis des pays étrangers.
Ouais.
Comment ce pays a tendance à aller s'incruster chez les autres, soi-disant en se drapant du voile de la paix en étant une espèce de bienfaiteur de l'humanité, mais en réalité par pure cupidité pour s'approprier soit des richesses, soit en tirer une sorte de profit, comme il l'a fait plusieurs fois en Amérique du Sud notamment et plus récemment au Moyen-Orient. Et c'est vrai que d'un seul coup, J.C. Chandor les pointe du doigt à travers ces cinq ex-militaires qui d'un seul coup sont des sortes de Rambo, qui eux-mêmes sont revenus de plein d'opérations.
Et qui galèrent dans la vie.
Ils ont du mal à se réintégrer dans la société. Et on leur offre cette opportunité d'enfer, de dire vous allez faire un truc bien, vous allez faire tomber un baron de la drogue, et en plus vous allez pouvoir vous servir dans les caisses.
Vous garderez le pognon.
ah, c'est pas mal quand même dans l'idée. Et en fait, très rapidement, on va s'apercevoir que sous ce côté, bah, enfin, ils vont toucher la monnaie de leur pièce. Il y a une part il y a une part de haine, il y a une part de colère, il y a une part de déshumanité chez eux, il y a une part de pure cupidité en fait qui va finalement les consumer de l'intérieur et ils vont en payer le prix. C'est un vrai film de chemin de croix en fait, plus qu'un film d'action. Et donc je pense que si on s'attend à ça, on peut être assez déçu, ouais, en allant voir le film de Chandor.
Moi, je trouve que c'est un cinéaste vraiment très intéressant parce qu'en fait, il arrive effectivement donc à son quatrième film et j'ai l'impression qu'à la fois, il a fait des films qui, en apparence, sont à chaque fois radicalement différents. Il se réinvente à chaque fois sur les sujets, les contextes, etc. Et en même temps, il a fait quatre fois le même film. À mon sens, c'est toujours deux grandes thématiques majeures qui irriguent son cinéma. D'une part, le rapport à l'argent et la folie que ça engendre chez les gens, notamment dans la civilisation américaine. Et d'autre part, la question de l'individualisme et de la survie liée à l'individualisme. Dans Margin Call, c'était déjà ce sujet, la manière dont chacun individuellement va se sortir des intrications à la fois financières et politiques, au sens politique d'entreprise dans laquelle ils sont fourrés. Holly's Lost, c'est l'histoire d'un navigateur solitaire qui se retrouve tout seul à tenter de s'en sortir sur son petit voilier en bois. Et là, dans Triple Frontière, on a ce qui commence comme effectivement un film de casse et qui se prolonge dans une sorte de survival dans la jungle qui est double, c'est-à-dire d'une part il y a le problème de on vient de faire un casse, on part avec un énorme pactole et on a peut-être été un peu trop gourmand et en fait ce pactole peut-être que c'est ce qui va nous tuer ou c'est ce qui va nous ralentir ou c'est ce qui va nous poser des problèmes et en fait il risque de s'amenuiser dans l'affaire. Et puis chacun se retrouve confronté à des questionnements, existentialistes, personnels, de pourquoi je fais ça, pourquoi je me suis engagé là-dedans, est-ce que je l'ai fait pour l'argent, est-ce que je l'ai fait pour donner du sens à ma vie, et au bout du compte, qu'est-ce que je vais faire après. Et du coup, je trouve que toutes ces thématiques sont traitées de manière assez intéressante. Le fait que ça soit Mark Ball au scénario, c'est effectivement un projet qui aurait pu être un projet Mark Ball Bigelow pur jus à la base, moi ça m'interroge un peu, et notamment la manière dont j'ai abordé le film, rien qu'avec son titre et son pitch un peu succinct, Triple Frontière, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'aspects liés aux problématiques politiques, en fait, de se retrouver dans une zone entre les frontières, entre trois pays différents. C'est un petit aspect du truc, mais c'est pas du tout centré là-dessus. En fait, ce que je retrouve le plus dans les films auxquels Mark Ball a contribué, ceux réalisés par Bigelow, ça va être une description très minutieuse des forces opérationnelles, de la manière dont ils vont faire le casse et la manière millimétrée d'agir et de se coordonner. Ça rappelle Zero Dark Thirty. Il y a des éléments comme ça qui sont extrêmement bien rendus par Chandor, mais au final, ce qui l'intéresse vraiment, c'est cette confrontation existentielle à ce que l'argent nous fait faire. Et il y a un moment, c'est une très belle séquence où ils deviennent un peu tous fous à rire autour d'un feu de camp dans lequel ils font brûler des liasses de billets de 100 dollars. et ces plans-là sont, à mon avis, vraiment caractéristiques de ce qui l'intéresse.
Mais après, moi, j'avoue que ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, en effet, cette idée, quand il s'intéresse à ses forces spéciales, comment il les décrit, ça, c'est vrai que c'est plutôt bien fait. Moi, j'aime beaucoup l'ouverture, tout le début, en fait, où on a un peu la présentation de chacun. On a une présentation très claire d'Oscar Isaac, qui est un peu l'élément, c'est lui qui va rassembler la troupe, c'est lui qui va, la vieille camaraderie, etc., qui va faire revivre un peu tout ça. Mais on a une présentation de chacun de ces personnages qui représente chacun une facette de comment on s'en sort post être un héros de la guerre d'une certaine façon, et comment on s'en sort pas aussi d'une autre façon. Et ça, j'aime beaucoup ça. Mais là où je suis un peu plus, ce qui moi m'a un petit peu sorti du film, c'est justement cette partie casse en fait, qui est très réussie en soi en termes de mise en scène, en termes de caméra. C'est pas la question, c'est juste que en fait c'est le contexte. Le contexte, c'est l'Amérique du Sud, les cartels, et ils s'en foutent en fait à un degré de je m'en foutisme qui moi m'a sorti un peu. C'est à dire que on a l'impression que c'est les cartels des années 80. On planque les billets un peu n'importe où. Et cette espèce de... En même temps, ça peut être intéressant, l'idée de se dire que les Américains voient encore les cartels ou les barons de la drogue comme des gars qui vivent au fin fond de la jungle en cachant leurs billets, sous leur matelas, limite. comme un Escobar qui planquait ça dans des tonneaux dans les champs. Bon, pourquoi pas, mais je trouve que c'est une vision un peu fantasmée, un petit peu des cartels, en fait.
Mais
et
c'est vrai que
je trouve
Chandor...
que c'est un peu dommage, quoi. Moi, ça me sort un tout petit peu. Et c'est pour ça que la troisième partie, où là, on est dans ce chemin de croix, dans cette réflexion, là où on est, où il est vraiment... là où Chandor est Chandor, en fait. C'est-à-dire que là où il est plus dans, vraiment, dans des proximités avec Bigelow, mais plus dans des réflexions personnelles, ce qui est plus proche de son cinéma à lui. Là, il me réintéresse davantage, parce que je trouve que vraiment, cette partie cartel... Ça aurait pu être un cartel comme un roi du pétrole. C'était, pour moi, c'était le même système, en fait. Et c'est parce que c'est trop fantasmé.
Ouais, mais clairement, en fait, pour moi, c'est en ça que ça rejoint ses autres films. C'est-à-dire qu'il est toujours dans un univers extrêmement stylisé, même qui, parfois, en apparence, peut paraître... avoir des aspects très, très précis et très documentaires. On a du mal à y croire réellement. Ah, et c'était déjà le cas sur la manière dont il décrivait la finance de marché dans Margin Call, et même toute l'histoire du bateau avec Robert Redford dans All Is Lost, ou aussi la manière, enfin l'histoire entrepreneuriale de...
Vos volontaires étaient beaucoup plus ancrés, plus fortement, je trouve, dans une réalité.
En fait, t'es plus ancré dans la réalité parce que y a les codes du survival, etc. Mais le film, en permanence, raconte... quelque chose de manière métaphorique.
Ah bah totalement.
Et du coup, on est sur ce registre-là. Et moi, il y a un truc que tu me disais juste avant qu'on enregistre et qui me paraît hyper pertinent, c'est la comparaison avec Sorcerer. On est effectivement dans un truc. Et d'ailleurs, il y a un peu ce parallèle avec un début un peu documentaire où on présente les différentes partie prenante, avant de rentrer dans quelque chose qui est complètement presque spirituel, en fait, dans la confrontation. Alors, ça va pas du tout jusqu'à ce que aussi fait loin, Friedkin avec Sorcerer, mais on a
une démarche similaire, en tout
exactement.
Cas.
La démarche est de confronter chacun des personnages à leur démon personnel. Et puis après ça boucle jusqu'à une fin qui en revanche me paraît presque à côté du film, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est pas la bonne fin de ce film-là, qui est un petit peu décevante. Je sais pas si elle a été poussée par la production. En fait, ça aurait été un film de studio sorti au cinéma, on se serait dit ah bah tiens, ça c'est peut-être le studio qui pousse là-dessus. C'est étonnant en fait de voir ça sur un film Netflix où tu te dis qu'il a à peu près toutes les libertés. C'est une fin que je trouve très convenu, très un peu une pseudo feel good qui n'a, à mon sens, aucun rapport avec ce qui nous a été raconté.
Pour moi, elle est
avant.
Autant à côté de la plaque que cette histoire de cartel, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette fin-là, comme la description du monde des cartels. Je me place pas en experte absolue des cartels, mais c'est juste qu'en soi...
Oui, mais si, on a bien compris que...
T'as vu pas mal de saisons de Narcos.
J'ai vu pas mal de saisons de Narcos.
Ça vaut bien un doctorat sur le sujet.
J'ai des copains en Colombie, voilà.
Je ne parlerai pas
de ma vie personnelle, mais bon, voilà.
Ça pourrait être incriminé.
Mais l'idée, c'est que... Voilà, mais c'est encore une fois, il y a une sorte de décalage où, en fait, c'est cette absence de réalité... Mais il y a un côté conte, en fait. C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans un conte moral... Conte moral, vraiment, il est juste en train de nous faire une leçon sur les dangers de cette cupidité, les dangers et surtout les faux prétextes qu'on se met pour justifier ça, en fait,
clairement,
qui sont presque plus dangereux que la cupidité elle-même. C'est-à-dire que de dire, d'y aller franco en disant, bah non, je veux la thune, c'est très honnête au moins.
Oui.
Mais là, il est plutôt en train de dire non, parce qu'on a des principes. Et mais non, vos principes, c'est rien du tout, c'est de la flotte en fait. Et je trouve que c'est là la force de Chandor. Et c'est vrai que voilà, moi, c'est juste cette fin aussi, un petit peu, genre, mais en même temps, ça va bien avec l'idée du conte.
Oui.
Mais elle tombe un peu comme un cheveu sur la
elle
soupe.
Elle tombe un peu à plat.
C'est un peu la soupasse. Mais sinon, c'est pas mal.
C'est pas mal, et c'est à voir sur Netflix. Triple Frontier, on l'a dit. Merci à tous les deux. Merci à Solène, à la technique, Minge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Minge.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.